Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 18e de cette 4e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Hélène Sandranier.
Bonjour.
Vous êtes, vous avez plusieurs casquettes, mais vous êtes essentiellement vice-présidente du département, du conseil départemental, et chargée, alors, du social, puisque c'est une des compétences essentielles du département, mais chargée de l'autonomie. Vous nous expliquerez un petit peu ce que tout cela veut dire tout à l'heure. Merci. Notre sommaire, Michel, un retour sur le Racing. Bon, c'est un feuilleton et on ne peut pas l'éviter. Et puis, alors après, à la suite de la mésaventure Wauquiez sur le plan national, tu reviens sur un ancien personnage célèbre de la région, alias Guy, Georges Frêche, et son théorème, parce qu'il y a un théorème de Frêche.
Oui, je prétends qu'il y a un théorème politique inventé par Frêche.
Les électeurs sont des cons, je cite, c'est pas moi qui me permets de le dire.
Moi non plus.
Voilà. Et dans une deuxième partie, un sujet sur le vieillissement et l'aménagement du territoire, et notamment les EHPAD, les établissements
d'hébergement
de personnes dépendantes, de personnes âgées dépendantes, c'est ça. Et ça sera évidemment une excellente transition avec notre invitée Hélène Sandranier. Mais le Racing, aujourd'hui, bon, qui continue à patauger, à se débattre, et alors toi, tu as relevé quelque chose qui te plaît pas, Michel.
Ah bah écoute, Jean-Claude, c'est jeudi. Hein, jeudi, je vois le bandeau de l'Indépendant annonçant une grande, en fait, longue interview du président Archila, qui était censé, dans cette interview, dire sa vérité sur le Racing, notamment ses résultats à la fois financiers et sportifs. C'est vrai qu'au plan sportif, Jean-Claude, mais nos auditeurs le savent, ils n'ont pas besoin de long développement.
Tout le monde le sait, il y en a beaucoup qui en souffrent.
Voilà,
en plus.
Jamais dans sa longue histoire, le Racing n'a encaissé autant de points en une saison. Je crois qu'il détient le record historique fait de toute l'histoire du rugby, notamment en Pro 2. C'est vrai que la Pro 2 n'existe pas depuis très longtemps, mais quand même. Et puis, un ami à qui je faisais cette remarque l'autre jour dans les Halles de Narbonne me faisait observer que M. Santo, certes, dans une saison, mais je n'ai jamais vu le Racing encaisser 50 points en une mi-temps. En fait, c'était le dernier match contre Biarritz, je crois. En fait, hein. Je n'y étais pas, mais je tiens son propos de ce monsieur qui suit très régulièrement le Racing. Donc, interview vérité de Bernard Archila à la veille d'un match important contre Grenoble qui va sanctionner ou pas la descente quasiment inéluctable du Racing en fédéral. Et dans cette longue interview de Bernard Archila, qui, je le rappelle, représente le bloc d'actionnaires narbonnais, je mets narbonnais entre guillemets, qui a repris le Racing au bloc d'actionnaires australiens de la saison précédente, et au motif que ce bloc d'Australiens faisait n'importe quoi au plan financier comme au plan sportif. Je m'en souviens très bien l'avoir chroniqué sur le sujet ici, à cette antenne, Jean-Claude, mais je ne vais pas insister. Alors, qu'est-ce qu'il dit, en fait? Alors, j'étais très déçu, en fait, de cette interview, parce que qu'est-ce qu'il dit, en fait, Bernard Archila, pour expliquer la situation du Racing aujourd'hui? Eh ben, il dit que, voilà, c'est, il est pour rien, quoi. Il est pour rien, et que tout ça, c'est la conséquence d'une gestion du Racing depuis les 20 dernières années. Il précise les 10, et puis il rajoute derrière, non, pas 10, 20 dernières années. Ça remonte quand même loin, quoi, pour expliquer les difficultés du Racing aujourd'hui. Ça remonte à 20 ans.
Oui.
Premier argument. Deuxième argument, les infrastructures, qui sont pas du tout adaptées, à la pratique d'un sport comme le rugby, dans les conditions d'aujourd'hui.
Ce qui est peut-être vrai,
mais il n'en précise pas le détail, en faisant simplement observer au journaliste qui l'interviewait qu'il avait un projet, de stade, dont il dira le moment venu le contenu à la presse, non pas au pouvoir public qui gère, le stade en question, mais à la presse d'abord. Je trouve ça un peu cavalier, mais bon.
Rappelons que le stade est toujours, à ce jour, propriétaire. Ben
évidemment. Donc, je suis pas sûr que le maire de Narbonne apprécie beaucoup que, Bernard Archila dévoile le contenu du projet de parc qu'il a à l'esprit à la presse avant que d'en parler, au maire dont il est, qui en est le propriétaire. Mais bon, fermons la parenthèse.
Oui, une petite parenthèse, juste pour la véracité historique, c'est en 2000. 7 que Narbonne était descendu du top 14. Top 14. Donc ça fait une dizaine d'années vraiment il y a une tourmente qui se prolonge.
Alors, je me suis, en disant ça, je me suis quand même interrogé sur le fond. Quoi. Je me suis dit, voyons voir, qu'est-ce qui peut justifier rationnellement, un élu, fait un maire en l'espèce, et un président d'agglo, et voire un président de conseil général, qui participe à leur manière au financement du Racing, sous des formes diverses et variées, et pour des montants au total très élevés, qu'est-ce qui peut rationnellement justifier ces sommes aussi importantes allouées au Racing? Alors, est-ce que c'est les résultats sportifs qui compléteraient la communication municipale, départementale et de l'agglo positivement?
C'est souvent d'ailleurs le message officiel.
Ouais, sauf que là, avec des résultats pareils, on peut pas dire que le résultat sportif du Racing contribue à la notoriété de la ville de Narbonne. En fait, j'aurais tendance à penser, ou alors il faudra qu'on me fasse la démonstration inverse, ça produit des effets plutôt inverses, en fait, et négatifs. Mon Dieu, si la ville ressemble, en fait, à son club, qu'est-ce que c'est, en fait, que cette ville-là? Premier élément. Deuxième élément, rationnel là aussi, parmi les arguments avancés, et indépendamment de la communication par les pouvoirs publics, il y a celui de la contribution d'un sport à la pratique de masse du sport. C'est-à-dire, je finance un club d'élite, parce que ce club d'élite va entraîner, en fait, à sa suite, la pratique par les jeunes, en fait, d'un sport, en fait, de masse. Donc, ça contribue, effectivement à ça. Et donc, derrière, politique de santé publique, etc. Je n'insiste pas. On peut pas dire
donc,
là non plus.
On n'y est plus. On peut pas dire là non plus.
Deuxième argument rationnel, que ce soit effectivement le cas pour le Racing. Le nombre de licenciés aujourd'hui, en Narbonne, en football, dans les clubs de football, dans les clubs de volley, voire même dans le club de natation, de Narbonne, de CNN, sont 10 fois plus élevés que les licenciés de la Fédération française de rugby. Donc, voilà le problème que je pose de fond, de sorte que je me demande si on va, les élus, en charge, effectivement, de la recette publique, donc du contribuable, combien de temps encore ces élus vont avoir cette option préférentielle, de financement public du sport envers le Racing et donc le rugby.
Voilà
la question que je pose sur le fond.
Et un petit mot, je ne sais pas si ça sera une esquisse de réponse
d'Alexandre Agnier. Non, je ne prétends pas avoir.
Mais votre opinion,
la réponse, Agnier. Non, mais je voudrais revenir là, juste ponctuellement, sur les raisons qui font qu'une collectivité. Bon, moi, je parle
au nom de la collectivité. Vous avez été adjointe au maire aussi.
J'ai été adjointe au maire. Aujourd'hui, je suis vice-présidente au département et je ne prétends pas connaître ce sujet comme peut le prétendre. Peut le connaître, par exemple, Patrick François, qui au département est en charge du sport. Mais toutefois, ce que je sais, c'est qu'au-delà des arguments que vous avez évoqués en termes d'attractivité pour un territoire, qui font que effectivement on vient chercher une collectivité en lui disant, vous voyez, bon, ça pourrait être un élément supplémentaire, bon, et auquel on adhère. Bon. Moi, je sais sur le Racing que notre aide porte essentiellement sur le centre de formation.
Voilà.
Et
je parle du Racing.
Oui, voilà. Et je me permets d'apporter cette précision, parce qu'elle est, elle me paraît de taille.
Exactement.
Nous avons fait le choix, effectivement, d'aller aider à la fois des jeunes à s'impliquer dans un sport et en même temps à le promouvoir.
Voilà. Donc, merci de cette précision. Elle était sans doute
formation, effectivement.
Utile. Alors, est-ce que on aborde aujourd'hui maintenant notre deuxième sujet, qui est le théorème de Frech?
Ah oui. Alors que je m'explique quand même. Pourquoi ce théorème de Frech aujourd'hui?
Il est ressorti grâce à Monsieur Wauquiez.
C'est grâce à Monsieur Wauquiez qui, il y a pas très longtemps, a donné un cours, je mets des guillemets autour de cours,
étudiants
dans une école de commerce de Lyon, une connue, quoi, pas une école de commerce banale, quoi.
Un cours rétribué d'ailleurs,
un cours rétribué, un cours, c'est quasiment obligatoire, très faiblement, mais enfin quand même, c'est pas le niveau de Sarkozy ou d'autres présidents, d'anciens présidents de la République.
C'était un niveau raisonnable et normal, on va dire.
Et le cours a duré je ne sais combien de temps, en tout cas. Plus d'une heure, et évidemment, bon, paf, on a retenu quelques minutes de son intervention où il a parlé, dit-il, cash, C'est pas moi qui utilise ce genre de terme, hein. C'est bon, la presse, les médias et lui-même, les cash, c'est-à-dire direct, franc, sans aucune retenue, ce qui, d'ailleurs, entre parenthèses, a été particulièrement apprécié par ce public d'étudiants qui évidemment...
A tendu l'oreille, forcément.
A tendu l'oreille, mais il vit dans ce monde du cash, quoi. Hein. C'est le genre d'étudiant, je ne connais pas en particulier, mais je suis sûr qu'il pratique les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et là, bon, on peut pas dire que le langage qui est utilisé par les jeunes gens aujourd'hui sur ces réseaux soit particulièrement châtié, quoi. C'est cash de cash, quoi. Hein. C'est même quelquefois limite ordurier.
Mais là, ils en ont eu pour leur argent. Et alors, ça te rappelle donc Monsieur Fraîche dans des conditions un peu identiques?
Eh bien oui, alors parce que... Lever du bouclier, en fait, les journalistes, alors, une parenthèse quand même, les journalistes s'indignent, mais en même temps, ils sont d'une hypocrisie totale, parce que j'ai encore le souvenir d'un rédacteur en chef d'une station qui se réjouissait justement, on va y venir, d'avoir, en fait, à l'antenne Georges Fass, parce que c'était un bon client, disait-il. Mmh. Effectivement, pour produire du bœuf, bon, là, il y a des profils. Oh, Fraîche, pourquoi je dis théorème de Fraîche? Parce que, en 2008, Georges Fass, qui était à l'époque président de la région, Languedoc aussi,
et qui était professeur à l'université de droit de Montpellier.
Et qui cumulait normalement, quoi. Oui, il fait son boulot, etc.
C'était son job.
Trois heures de cours par semaine. Bon, c'est pas terrible. J'étais prof associé, donc. Passons. Alors lui, c'était pas une école privée, c'était l'université publique.
Oui.
Devant ses propres élèves de droit, quoi, hein. Et qui explique que, ben voilà, hein, pour se faire élire, en fait, dans, maire, en fait, quoi. C'est pas compliqué, hein. Je pars du principe suivant. Il y a 6% de gens intelligents, à peu près. 3% qui votent pour moi et 3% qui votent contre moi.
Alors, et le reste?
Le reste, ce sont des cons. Ce sont des cons, c'est pas moi qui parle, hein. C'est Georges Fraîche, hein, Dixit, hein. Et les cons sont majoritaires, donc. Et moi, là, je ramasse des voix en masse, hein. Les cons en masse. Alors je continue et je sais comment les engraner. Je ne connaissais pas ce terme engrané, en fait, qui a.
C'est de l'occitan.
C'est occitan, engrané.
On connaissait engrané.
Engrané, quoi. Donc j'engrane les cons avec ma bonne tête. Je raconte des histoires de cul, fait, etc. C'est un succès fou. Ils en disent, mais il est comme nous, en fait, ce Georges Fraîche. Il est professeur d'université, mais enfin, il parle comme nous, quoi. Il s'intéresse à des questions de cul, etc. Donc c'est gagné. Il vote pour moi, hein. Alors voilà, et puis parce que les gens sont des cons, hein, ils sont cons, et puis en plus ils sont bien dans leur connerie, alors pourquoi les en priver, en fait? Voilà. Dixit, Georges Fraîche. Voilà. À l'époque, je veux dire, personne n'a rien dit.
Oui, mais Georges Fraîche était déjà Georges Fraîche.
Ouais, mais l'avocat, bon, qui a dit peut-être le dixième, en fait, ou le centième, il n'a même pas prononcé, il n'a même pas dit les électeurs sont des cons, hein, mais il a simplement tapé sur Sarkozy et tapé sur Macron. Dans des termes, c'est certes un peu triviaux, mais bon, ça les traitait de cons, d'abrutis, etc.
Enfin, bref.
Finalement, en fait, la leçon à tirer de cette histoire, en fait, de ce théorème de Fraîche et du comportement d'avocat, c'est que, à trop jouer aux cons, hein, finalement, on finit par devenir con soi-même.
Voilà, eh bien, sur cette... alors, une petite remarque.
Bah oui, parce que, bon, quoi qu'il en soit, ce qui n'est pas supportable dans cette affaire, Georges Fraîche, il a eu d'immenses qualités, un gestionnaire hors pair, mais il a eu aussi
ses traits. Un personnage à double facette.
Voilà, à double facette. Mmh. Et bon, moi je le dis, et je le dis pour Wauquiez, peut-on s'exprimer comme cela?
Quand on est un personnage public.
Et quand je dis ça, je veux pas du tout dire le politiquement correct. Il s'agit de ne pas s'exprimer, de ne pas donner le fond de sa pensée. C'est pas de ça dont il est question.
Voilà. Donc finalement,
la question, c'est la question du respect, du respect d'un auditoire, du respect d'un public, du respect des électeurs. Après, moi, Wauquiez, j'interviens pas. Je sais pas s'il dit vrai ou pas. Il parle.
Voilà.
Il parle.
Comme parlait dans son temps Georges
Fraîche. Voilà. En tout cas, il va falloir que nous, on cesse de parler pour marquer
c'est
une
ça.
Pause.
C'est ça. Et à la limite, on pourrait effectivement aussi s'interroger sur, la part qu'on peut avoir en relevant ces propos extrêmement provocateurs.
Oui, et on marque donc maintenant une première pause.